Des mots pour le dire. Une émission de Redouane Espanti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour des mots pour le dire. De semaine en semaine, on passe de mot en mot et ces mots nous permettent de découvrir ce qui se cache derrière la théologie buissonnière. Ainsi s'intitule le livre de Michel Théron. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane.
Donc un livre que vous avez écrit déjà et un deuxième qui est en préparation et dont vous nous faites la primeur. Ce qui est, depuis le temps, plus d'un an maintenant qu'on est ensemble, ce qui m'intéresse, c'est votre approche, non pas en tant que théologien, mais en tant qu'homme de lettres, qui défriche les mots, essaye de comprendre ce qui se cache derrière, et derrière les mots, il y a des réalités, à la fois philosophiques, théologiques, et vous nous donnez votre sentiment, votre manière de lire les choses, vos réticences, vos critiques, vos coups de colère, et en même temps, vous laissez toujours une porte ouverte, permettant ainsi aux auditeurs d'être un peu bousculés aussi dans leur acquis, dans leur vision et c'est ainsi que l'esprit est alimenté et ne doit pas en aucun cas s'endormir. Et d'ailleurs, c'est ce que vous dites dans votre livre, que ce livre souhaite être l'occasion d'un salutaire remue-ménage ou une tempête des esprits pour qu'on puisse chaque jour se sentir encore plus jeune. Et le mot d'ailleurs aujourd'hui est un mot aussi qui est un tournant et qui marque à la fois des convictions très fortes. C'est le mot espérance.
Espérance. Alors nous entamons avec ce mot une nouvelle série de 50 mots qui seront édités par le même éditeur, Goliath, comme tome 2 de cette théologie buissonnière. Alors l'espérance, c'est avec la foi et l'amour une des vertus essentielles, vertu qu'on dit cardinale, ou bien encore théologale, du chrétien. Cette fameuse triade, espérance, foi et amour, figure à la fin du passage fameux sur l'amour ou la charité, en grec agapé, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Voici ce que dit Paul. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, ou la charité, agapé, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. En effet, c'est dans l'ordre que je viens de dire, que les vertus et que Paul utilise, que les vertus sont nommées foi, espérance, charité. Ces trois vertus sont symbolisées dans l'emblème de la région près de laquelle j'habite, tout près entre Montpellier et Nîmes, la Camargue. En effet, tout le monde connaît la croix camarguaise, qui comprend en son sommet une croix qui figure la foi, laquelle surmonte un cœur qui figure la charité, et à la fin, en bas, il y a une ancre qui figure l'espérance. Alors, pour Paul, la charité ou l'amour est la plus grande des trois vertus, mais pour un homme comme Charles Péguy, par exemple, à la différence de Paul, ce n'est pas l'amour ou la charité qui est la plus grande des vertus, mais bien l'espérance. Dans un très beau texte qui s'appelle « Le porche du mystère de la deuxième vertu », c'est-à-dire l'espérance, et qui est paru en 1912, Péguy, avec cette simplicité familière mais très émouvante au fond qui le caractérise si souvent, fait parler Dieu. Alors Dieu dit « La foi, ça ne m'étonne pas, la charité non plus, ou l'amour non plus, mais l'espérance, dit encore Dieu, voilà ce qui m'étonne, voilà ce dont je ne reviens pas. » En effet, je pense que vous en conviendrez, Redouane, il peut exister une foi assez obtuse, imperméable au doute, que l'on appelle la foi du charbonnier. Et aussi, il peut exister une charité laïque ou athée, et il n'est point besoin de croire en Dieu pour aimer et pour aider son prochain. Voyez par exemple un homme comme Camus, de ce point de vue. Mais l'espérance, elle, suppose un saut hors du probable, un saut hors de ce qui est constatable quotidiennement. Comment peut-on continuer d'espérer en un monde meilleur Ce qui est la preuve, par parenthèse, une preuve évidente dans ce cas, que ce monde-ci ne vaut pas grand-chose, puisqu'on espère dans un monde meilleur, quand précisément ce qu'on voit dément constamment cette attente. Est-ce que vous êtes d'accord, Edouane, qu'il peut exister une foi du charbonnier et une charité athée ?
Ah oui, tout à fait. C'était même une des problématiques qu'on se posait lorsque je travaillais au service protestant de mission. On envoyait non plus des missionnaires tels qu'on se le décrit, c'est-à-dire des pasteurs avec brandissant la Bible et convertissant des polythéistes, mais dans le cadre des relations d'église, on envoyait à la fois des médecins, des techniciens, et on s'est posé à un moment donné la question de savoir en quoi un envoyé du DEFAP qui part au nom de ses convictions spirituelles agit de manière différente qu'un médecin envoyé par Médecins Sans Frontières. C'est cette question-là, et on s'est dit, voilà. La question n'est pas de savoir si on soigne mieux ou moins bien, c'est qu'on est ancré dans des convictions, l'un et l'autre, et il n'y a pas de conviction supérieure à l'autre.
Tout à fait, tout à fait. Cette espérance, elle est très étonnante. Ce qui est en question n'est pas la possibilité de l'existence d'un monde meilleur, mais la possibilité où nous sommes de conclure à cette existence, d'inférer, comme on dit, à cette existence, ou de postuler ce monde meilleur à partir de la seule considération de ce monde-ci. Je vais prendre un exemple. Imaginez un cajou d'orange. La première rangée est pourrie. Que peut-on conclure logiquement quant aux rangées d'en dessous ? Eh bien, logiquement, on en conclura qu'elles aussi sont pourries. Bien sûr, elles peuvent ne pas être pourries. Il est possible qu'elles ne soient pas pourries, mais il est probable qu'elles le soient. Et nous ne pouvons logiquement, rationnellement, conclure ou inférer de l'examen des premières oranges nous ne pouvons conclure que les secondes, celles d'en dessous, ne soient pas aussi pourries que les premières. Autrement dit, l'espérance est tout sauf une disposition ou une posture rationnelle. Et cependant, l'espérance est profondément ancrée au fond de nos cœurs. Je dirais que c'est une constante anthropologique fondamentale. Par exemple, lorsque des parents perdent un enfant, soit par maladie, soit par accident, on constate que très vite ensuite, ils en ont un autre. Pourtant, ils auraient logiquement toutes les raisons de ne pas recommencer après l'injustice atroce qu'ils ont subie. Ils devraient dire « c'est assez, arrêtons les frais ». Ça serait l'attitude logique. Mais non, ils font exactement ce qu'ont fait Adam et Ève, nos premiers parents, lorsqu'ils ont perdu leurs deux premiers fils, le premier Abel étant mort, et l'autre, Caïn, s'étant exilé. Adam et Ève alors eurent un troisième fils, Seth, S-E-T-H, qui veut dire en hébreu littéralement « mis à la place ». Voici ce qu'on en lit en Genèse 4, 25. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, « Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel » que Caïn a tué. On ne comprend ce texte que si on sait que Seth veut dire « mise à la place ». Et c'est de ce Seth que descend Jésus lui-même, comme dit Luc, Luc 3, 38, et c'est de lui que se réclamèrent des hérétiques que l'on a appelés « sétiens ». Mais je pense que plutôt que d'un remplacement qui serait bien prosaïque, Seth mise à la place, il faut dire que Seth incarne l'espérance, la noble espérance, celle qui marche si souvent à nos côtés. Comme dit fort joliment Charles Péguy, la petite espérance s'avance entre ses deux sœurs, celle de ses deux grandes sœurs, celle qui est mariée, c'est-à-dire la foi, et celle qui est mère, c'est-à-dire la charité.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure les mains dans les mains, restons face à face. Tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure, l'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente. Et comme l'espérance est violente, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure, passe les jours et passe les semaines. Ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont.
Le pont Mirabeau, chanson chantée par Léo Ferré. Je dis chanson, c'est pas une poème. Chanson au départ, c'est un poème, effectivement. Un poème de qui ?
D'Apollinaire, c'est un poème très connu d'Apollinaire. J'ai choisi ce poème à cause des vers, ou grâce aux vers qui y figurent, comme par exemple « L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente ». Vous voyez, c'est irrépressible, c'est un élan du cœur en nous, hein, au mépris de toute logique, au mépris de tout raisonnement, comme l'espérance est violente. Il y a un mythe grec sur l'espérance, c'est le mythe de Pandore. Pandore, ce mythe nous dit bien qu'une fois ouverte la boîte de tous les bienfaits, et une fois tous ces bienfaits qui figuraient dans la boîte envolés et perdus irrémédiablement, eh bien, resta au fond de la boîte, une fois le couvercle refermé, le dernier de ceux-ci, de ces bienfaits, c'est-à-dire l'espérance, l'espérance. De tous les dons ou cadeaux, hein, alors Pandore en grec, ça veut dire la totalité des cadeaux, hein, de pan, passe, passe à pan, c'est tout, et doron, c'est le cadeau, hein, vous voyez Théodore qui veut dire cadeau de Dieu, hein. Eh bien, de tous les dons ou cadeaux contenus dans la boîte de Pandore, l'espérance est le seul qui nous reste. Alors, cependant, les Grecs n'ont jamais nourri d'espérance pour un autre monde que celui qu'ils voyaient sous leurs yeux, hein, pour un au-delà. Bien sûr, on peut objecter Platon, hein, mais Platon n'est pas significatif de la mentalité grecque à cet égard. L'amour des anciens Grecs pour la vie les empêchait de postuler un autre monde au-delà de celui qu'ils voyaient. Par exemple, dans l'Odyssée, Homère nous raconte que l'ombre d'Achille se lamente simplement d'être privé de vie. Mieux vaut, dit l'ombre d'Achille, être un chien vivant qu'Achille mort. Alors, certains écrivains modernes ont bien retrouvé cette inspiration. Par exemple, Camus, à la fin de L'Étranger, nous dit que son héros se dit à la fin, et enfin, vidé d'espoir. Ou encore, Jean Anouilh dans Antigone, le cœur nous disant dans Antigone d'Anouilh que dans la tragédie, précisément, il n'y a plus d'espoir, le cœur dit le sale espoir. La lucidité ici fait voir l'espoir pour un au-delà comme une illusion. Alors si Apollinaire dit « comme la vie est lente et comme l'espérance est violente », eh bien un autre poème, poète, Paul Valéry, dans le Cimetière marin, nous dit « la sainte impatience meurt aussi ». Alors, je pense que la valorisation de l'espérance est une caractéristique, au contraire de la pensée grecque, une caractéristique essentielle et même quasi définitionnelle dans le judaïsme. Et on dit que Sartre aurait dit à la fin de sa vie « le fond de ma philosophie est dépourvu d'espoir », c'est l'existentialisme sartrien. Maintenant, aurait dit Sartre, « je sais où il est l'espoir, mais je suis trop vieux pour apprendre l'hébreu ». Donc on voit que le judaïsme est essentiellement une religion de l'espérance. Hein. Que cette espérance soit immédiate ou messianique ou eschatologique, elle est évidemment gagée sur la promesse que Dieu a faite à son peuple. Hein. Que cette espérance juive ait pu perdurer pendant tous ces siècles, et malgré toutes les avanies subies par ce peuple au cours de l'histoire des hommes, au cours de l'histoire passée, force l'admiration. Vous ne pensez pas, Redouane, vu tout ce que le peuple juif a souffert, qu'il puisse continuer encore d'espérer, c'est admirable, non?
C'est plus qu'admirable, c'est un enseignement aussi de vie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas une espérance aveugle. Hein. Cette espérance se nourrit de doutes, de questionnements. Et je pense que justement, parce qu'il y a tous ces questionnements et ce doute, que la spiritualité, le mysticisme juif a pu s'enrichir et aller de l'avant. Ça n'a jamais été une religion statique. À part évidemment les conservateurs les pharisiens du judaïsme qui maintiennent aussi cette spiritualité un peu étouffée.
Tout à fait. Alors l'espérance juive est passée évidemment dans le christianisme qui à l'origine n'est qu'une dissidence du judaïsme. Alors cette espérance, elle est comme je l'ai dit en commençant l'émission, à la fois le déni illogique de ce qu'on voit et aussi l'irrationnel de ce qui souvent nous fait vivre. Voyez par exemple ce que dit Paul, Épître aux Romains 8:24, « car c'est en espérance que nous sommes sauvés », alors le mot c'est en grec c'est « helpis », « helpis » et en latin c'est « spes » dans la Vulgate, « or, dit Paul, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit peut-on l'espérer encore ?» Évidemment, et là je retrouve ce que vous disiez à l'instant, Redouane, c'est que l'espérance n'est jamais certitude. Hein. La seule certitude devient effectivement de ce que l'on voit. Et ce que l'on voit est bien souvent désespérant. C'est pourquoi, par exemple, notre credo parle de l'attente ou de l'espérance de la résurrection, vous voyez, l'espérance du redressement des morts. En effet, attendre et espérer, c'est la même chose, hein, cela tourne le dos complètement à la perception, en déniant la perception. Quelle foi, en effet, pourrait résister à la vue d'un cadavre, hein? J'ai cité Paul Valéry dans le Cimetière marin, je pense encore aux deux vers qui suivent. « Qui ne connaît et qui ne les refuse ce crâne vide et ce rire éternel ?» En effet, la tête de mort, le crâne, semble ricaner sur nos illusions. Donc, on a affaire là à de l'irrationnel, mais c'est un irrationnel vital, hein? Qui nous fait vivre. On l'a souvent dit, on dit souvent « tant que je respire, j'espère ». En latin, « dum spiro spero ». C'est beau parce que cela fait paronomase, les deux mots se ressemblent, « spiro et spero ». Mais on pourrait dire tout aussi bien, et peut-être plus profondément, « tant que j'espère, je respire ». Dum spero spiro. En effet, que serait la vie sans une attente? Comment vivre sans inconnu devant soi, dit René Char. Et vous savez, Redouane, que Dante a inscrit sur la porte de son enfer, à l'attention des damnés, laissez toute espérance, vous qui entrez. Pensez aussi à ce principe espérance qui était cher au philosophe Ernst Bloch. Le principe espérance, c'est trois volumes qui sont parus entre 1954 et 1959. Le principe espérance permet souvent d'échapper aux disparates et à l'hétéroclite et peut-être au côté incompréhensible du présent. Aujourd'hui, par exemple, hein, après la fin de toutes les idéologies et de toutes les utopies, aucune attente ne nous est proposée pour penser ou modéliser le présent et nous en faire espérer autre chose que ce que nous y voyons. Par exemple, je pense à la civilisation du capitalisme mondialisé qui s'étend sous nos yeux. Il y a un acronyme qui nous vient des États-Unis, c'est TINA, There is no alternative. Hein. Voilà.
C'est maintenant, il y en a un nouveau.
Ah oui.
Yes, we can.
Ah oui, 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 bien sûr, oui.
Comme dit, toute l'espérance de changement.
Comme dit Goliath dans son dernier hebdo, hein, Obama au plus haut des cieux. Vous voyez, Obama au plus haut des cieux. Bon. Alors, mais quand on nous dit il n'y a pas d'alternative, hein, eh bien, c'est désespérant. Et certains trouvent dans cette carence, dans ce manque d'espérance, dans ce défaut d'espérance, la cause du malaise dont nous sommes atteints. Il est vrai que les utopies, par exemple l'utopie marxiste, se sont parfois tragiquement réalisées et ont fini en catastrophe, hein, ce qu'on appelle les dystopies, hein, c'est-à-dire la réalisation catastrophique des utopies. Je pense évidemment aux systèmes totalitaires qui se sont inspirés de ces utopies. Mais il y a un proverbe que j'aime bien, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. En christianisme, en tout cas, l'Église a longtemps refusé d'enterrer religieusement les suicidés. Je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui, hein, mais le suicidé avait manqué d'espérance, disait-on. Et il est significatif que souvent, chez nous, on appelle un suicidé un désespéré. Hein. Je ne sais pas, je répète, si cela a changé aujourd'hui. Hein, mais je reviens à ce que dit Peggy dans le porche du mystère de la deuxième vertu. N'y aurait-il, dit Peggy, qu'un seul damné sur la terre, ce damné, ce serait Judas. Non pas parce que Judas a trahi Jésus, son maître, mais parce que, l'ayant fait, il a désespéré du pardon au point finalement d'aller se pendre. Vous voyez, et Peggy imagine que c'est en pensant au sort de ce damné suprême, à la pendaison de Judas, que Jésus aurait lancé son lama sabachthani final en Matthieu et Marc pour mon père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, juste avant de mourir lui-même. Alors, c'est une version de poète, ça, hein, mais c'est vrai que Jésus pleurant, comme dit Peggy, pleura sur la mort de Judas, sur cette pendaison qui lui avait fermé définitivement la porte du paradis.
C'est une lecture théologique,
oui,
que contestent les réformateurs.
Oui.
Car on ne peut pas, même étant poète, savoir ce qu'il en est du pouvoir de pardon de Dieu. Voilà, donc, oui, qu'on soit suicidé ou pas, ce n'est pas à nous de juger, car nous serons jugés à la manière dont on a été juge. Hein, ça y est, une parabole qui le dit très bien.
Tout à fait, mais alors ce dont je parle ici, c'est la position de l'Église catholique, hein. Position de l'Église catholique, bon, qui considère que le suicide est une atteinte à la vertu d'espérance. Elle le voit comme une désertion ou un abandon de poste, ce que les Grecs appelaient l'hypotaxia, abandon de poste. Mais alors, moi je pense aussi aux anciens stoïciens qui disaient, au contraire, que le suicide était une vertu suprême, l'acte même de la liberté humaine face à l'inévitable. Et Sénèque le dit bien, il n'y a aucune nécessité de vivre dans la nécessité. Vous voyez, vivere in necessitate nulla necessitas. Donc, songez aussi que si le suicidé a manqué peut-être d'espérance, l'Église, alors je dis bien, Redouane, l'Église catholique qui condamne le suicidé, manque bien, quant à elle, de charité. Hein, et sans parler aussi de tout le chantage au sacrement qu'elle a bien souvent exercé en cette matière, comme en bien d'autres domaines, jusqu'à le faire oublier ce chantage, parce qu'il était profondément intériorisé dans l'âme des fidèles, et que la menace effective n'en était plus même nécessaire.
Paris la nuit pour moi, c'est Paris boniment, la romance au néon qui se maquille et qui ment, chagrin sec ou aux larmes, qu'est-ce que vous préférez? Y'a que du chagrin à boire, à boire et à pleurer. Oui, la nuit à Paris, tous les cafards sont gris, et ça fait comme un coup du mal par où ça passe. Viens bébé, viens chéri, j'ai de l'amour dans tes prix. Tu verras gros jaloux, faut que ça pleure ou que ça casse. J'ai beau me la raconter, j'y crois pas, j'y crois plus. J'ai le cafard et c'est tout, et y a pas de lenturlu, y a pas de chanson qui tienne. J'ai beau me la raconter, l'espoir, moins qu'il y en a, plus que c'est lourd à porter. Est-ce qu'il reviendra jamais, mon petit homme qui m'aimait? Vous vous en foutez tous, qui remet la douce en crève. Ben pour moi, vous savez, vous pouvez tous crever. Comme ça, j'aurai mes soirs pour le revoir en rêve. Tout de même à supposer, tout d'un coup qu'il reviendrait, ce serait comme qui dirait, ce serait le 14 juillet. Quelle fête, quelle nuit, quel boum, quel ciel et quel java, j'en ai les genoux qui tremblent, comme si qu'il était là. Tout mon marbre avec moi ferait flamber sa joie en vert, en rouge, en bleu, comme un grand feu bengale. On danserait dans les rues et je croirais ce que je crois plus, que le bon Dieu pour sûr règne enfin sur Pigalle.
Colette Renard, Irma la Douce.
Oui,
là, cette fois-ci, vous plus de morceaux classiques, hein, là.
Ah non. Plutôt, Pour cette fois-ci, non. Bon, on reviendra au classique dans les prochaines émissions. C'est une comédie musicale d'Alexandre Bréfort, chantée par Colette Renard. Donc, j'ai retenu ce morceau parce que elle nous dit « L'espoir, moins qu'il y en a, plus que c'est lourd à porter. » En effet, l'homme qu'elle aime n'est plus auprès d'elle. Et au fur et à mesure que passent les jours, eh bien, cette dose d'espoir diminue. Et plus cela diminue, plus c'est lourd, hein, plus c'est difficile à porter. J'aime beaucoup cette idée-là. Alors, s'agissant de l'espérance juive d'abord, et judéo-chrétienne ensuite, et enfin chrétienne, bien sûr, on peut s'interroger, qu'est-ce qui est espéré? S'agit-il d'un bien terrestre et temporel, comme dans le cas sûrement du judaïsme traditionnel, ou bien d'un salut et d'un royaume totalement spirituel, comme ils le sont devenus en christianisme, salut et royaume? Est-ce que l'attente ou l'espérance s'adresse à un futur proche, comme dans les premiers temps du christianisme, où le royaume et ensuite la nouvelle venue ou parousie du Christ étaient sentis comme imminents? Ou bien au contraire, les délais ont-ils été considérablement différés, comme cela s'est produit ensuite? Autant de questions qui se posent. Mais il est certain que, en christianisme, l'espérance qu'on appelle eschatologique, c'est-à-dire qui a rapport aux fins dernières, peut être vue dans un climat dramatisé qui alors est fait d'imminence et de menace. Et imminence et menace ont la même racine latine. Alors le résultat, c'est l'exaltation, qu'elle soit de type adventiste ou bien millénariste ou d'un autre type. Et on s'appuie par exemple sur l'Apocalypse qui clôt la Bible chrétienne et qui s'achève par le dialogue entre l'époux et l'épouse. Voici ce que l'on lit. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt » et réponse « Amen, viens Seigneur Jésus ». C'est la fin de l'Apocalypse. Cet appel reprend une prière araméenne de l'Église des premiers temps, Maranatha, c'est-à-dire le Seigneur vient. Et Paul cite cette prière dans un climat de menace pour anathématiser déjà ce qui annonce un autre évangile que le sien, dont dans sa pensée les hérétiques. C'est la première épître aux Corinthiens 16, 22. Bon, je vais laisser de côté cette espérance eschatologique qui fait parfois souvent des exaltés. Hein. Et je remarque simplement qu'il est curieux qu'on attribue parfois l'Apocalypse au même auteur que celui de l'évangile de Jean, alors que l'esprit des deux textes est totalement opposé. D'un côté, vous avez l'espérance exaltée qui est dans l'Apocalypse, et qu'on peut résumer par l'expression « Voici, je fais toute chose nouvelle », Apocalypse 21:5, et aussi la menace brandie d'un jugement à venir, et de l'autre, l'affirmation d'une vie éternelle dans l'évangile de Jean, qui n'est pas promise ou attendue dans l'espérance pour le futur, ou espérance, comme on dit, post-mortem, après la mort, mais qui est déjà donnée aux croyants, qui peut se reposer alors dans cette vie éternelle. Voici un passage de l'évangile de Jean, Jean 5, 24, que j'aime beaucoup. « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Et qu'il a déjà la vie éternelle et ne vient point en jugement, eis krisin ou kerketai, mais il est passé de la mort à la vie. Metabebeken, il est déjà passé de la mort à la vie. Et je pense que celui qui écoute, à suivre ce texte de Jean, celui qui écoute la parole et qui croit à cette parole est déjà ressuscité. Donc il n'a que faire désormais d'espérer la résurrection. Il y a un évangile apocryphe que j'aime bien aussi, à côté de l'évangile selon Thomas, c'est l'évangile de Philippe, où nous lisons la chose suivante. « Ceux qui disent que le Christ est mort et puis ressuscité ont tort, en réalité il est ressuscité et puis il est mort. » Il est d'abord ressuscité, il s'est redressé spirituellement, et puis il est mort de sa vie ordinaire. Alors, cette remarque me mène à une constatation très curieuse, mais qui n'est pas faite pour me déplaire, car j'aime beaucoup, vous le savez, Redouane, renverser toutes les questions. Hein. Vous savez très bien que la réalité, elle est souvent double, et comme Janus, elle a deux visages, Janus bifronce. Hein. Par exemple, notre mois de janvier, il a deux visages, il regarde, janvier vient de Janus, hein. Il regarde à la fois rétrospectivement sur le mois de décembre, le visage qu'il voit en arrière, et il regarde sur l'année qui va s'ouvrir, janvier-Janus. Hein. Alors, je me dis, au fond, cette espérance, qui est notre plus précieux viatique, c'est-à-dire notre plus grande provision de route, viatique c'est provision de route, est-ce qu'elle ne pourrait pas être aussi notre plus grand ennemi? Notre plus grand ennemi. Est-ce que l'espérance ne nous empêche pas souvent de goûter l'instant présent, c'est-à-dire la plénitude de l'ici et maintenant, du hic et nunc, comme on dit en latin? Alors, j'ai trouvé chez Sénèque un raisonnement bien paradoxal, mais qui est très pertinent si on y réfléchit bien. Voici ce que dit Sénèque en s'adressant à Lucilius, « Tu cesseras de craindre lorsque tu cesseras d'espérer. » C'est en effet la crainte qui suit l'espérance, dit Sénèque, « Spem metus sequitur », car les deux états relèvent d'un cœur qui est mal établi en lui-même et qui est agité par l'attente du futur. La cause de ces deux affections, je cite toujours Sénèque, c'est que nous ne nous attachons pas à ce qui est là maintenant, il dit en latin « non ad praesentia aptamur », nous ne nous attachons pas au présent, mais nous envoyons nos pensées dans le lointain, « cogitationes in longinqua promitimus », à la différence des animaux, par exemple, qui n'habitent que le moment présent. Pensez par exemple au chat, qui est un animal magique et qui était sacré chez les Égyptiens. Je suis fasciné par les chats. Le chat n'est si magique et si attirant que, tout simplement, parce qu'il n'habite que l'instant présent. L'instant présent. Et c'est ainsi, conclut Sénèque, que la pensée du futur ou la prévoyance, il emploie le mot providentia, qui est quelque chose de comparable à notre espérance, et qui est le souverain bien de la condition humaine, bien sûr, s'est tournée en mal. En effet, l'avenir nous occupe dans l'anticipation, le passé nous retient dans la mémoire. Voilà pourquoi le présent nous échappe. Et Sénèque conclut, personne n'est misérable en demeurant dans le seul moment présent. Nemo tamtum praesentibus miser est. Donc je renvoie les auditeurs à la référence suivante, Sénèque, Ad Lucilium, lettre à Lucilius, lettre numéro 5, passage de 7 à 9. C'est un texte admirable. Et c'est un raisonnement imparable, il me semble, et d'un très grand intérêt spirituel. Ce qui nous tourmente en effet dans l'ordinaire de nos vies, vous le savez, Redouane, ce sont nos pensées, notre mental. Et dans toutes les sagesses du monde, l'enjeu essentiel, c'est la destruction du mental qui nous paralyse par ses hésitations et par ses tergiversations. Le mental crée en nous des crampes ou des nœuds par la multiplication des pensées sauvages, non maîtrisées, et il empêche notre éveil. Alors, le christianisme, au moins un certain christianisme, celui que je préfère, c'est-à-dire le christianisme de sagesse, hein, ne fait pas exception à cette grande règle spirituelle. En effet, on lit dans Matthieu, « Que votre oui soit oui, et votre non, non. Tout le reste vient du malin. » Matthieu 5, 37. Cela veut dire qu'il ne faut pas se laisser parasiter par le mental. Hein. Et ce christianisme-là tourne donc bien le dos à l'espérance traditionnelle, qu'elle soit d'origine juive ou qu'elle soit d'autre origine, pour préconiser la simple adhésion à l'instant présent. Et c'est une position qui valorise systématiquement l'accueil de l'inopiné, de ce qui fait surprise, de ce qui n'est pas attendu. On sait que dans le Zen, qui est la version japonaise du bouddhisme, le Satori, qui veut dire l'éveil ou l'illumination, vient très soudainement et n'est jamais préparé. On pense aussi à ce que dit André Gide, qui conseille dans ses nourritures terrestres, qui conseille à Nathanaël, de ne pas préparer ses joies. Malheur à toi, dit Gide, s'il t'arrive de dire que tu n'avais pas rêvé comme cela ton bonheur. Au fond, on pourrait assez trivialement peut-être formuler pour ce christianisme-là, le christianisme de l'instant présent, le christianisme de la sagesse spirituelle, une nouvelle béatitude qui serait heureux ceux qui n'espèrent rien, car ils ne seront pas déçus. Mais cette position, à mon avis, dépasse la simple plaisanterie. C'est une position bien plus profonde. Car on peut dire que si, d'un certain point de vue, l'espérance, toute trompeuse qu'elle soit, sert au moins à nous mener jusqu'au bout de la vie par un chemin agréable, d'un autre côté, d'un autre point de vue, l'espérance peut nous faire passer à côté de la vie, nous empêcher de la saisir et de la goûter vraiment. On dit « l'espoir fait vivre ». C'est vrai, parfois l'espoir fait vivre, mais parfois aussi il empêche de vivre. Vous savez peut-être, Edouane, ce qu'est le démon de la procrastination. C'est un mot barbare, ça.
Non, je ne sais pas, mais je vais découvrir.
Voilà, la procrastination, c'est dans le dictionnaire, c'est la tendance qui nous fait toujours remettre à demain des choses que l'on devrait faire tout de suite. Hein. En latin, vous avez « crasse » qui veut dire « demain hein, », la procrastination. Et il est vrai que, à trop espérer, eh bien, on oublie de saisir les choses, le maintenant, la circonstance, le kairos, comme il est dit aussi dans l'évangile de Jean, hein, le moment présent, le kairos, vous ne savez pas le saisir. Hein. Alors, c'est vrai, on fera l'objection suivante, ce sont les gnostiques, bien sûr, qui ont valorisé l'accueil de l'instant, l'accueil immédiat de la rencontre. Alors, je vais citer mon cher évangile de Thomas, Évangile selon Thomas, plutôt, Logion 91, ils lui dirent, c'est les disciples qui disent à Jésus, « Dis-nous qui tu es, afin que nous croyions en toi. » Et il leur dit, Jésus leur dit, « Vous sondez le visage du ciel et de la terre, et celui qui est en face de vous, vous ne l'avez pas reconnu. Et cette circonstance, vous ne savez pas l'apprécier. » Alors, le mot, c'est un copte, mais c'est un mot qui vient du grec. Hein, on pourrait appeler ça un mot grécopte. C'est kairos, c'est le même mot qui signifie la circonstance à saisir dans les évangiles. Et certains traduisent le dernier verset de ce logion de l'évangile selon Thomas par « Et le moment présent, vous ne savez pas l'apprécier ». En effet, le mot savoir, bien sûr, renvoie ici à la gnose. Gnosis, ça veut dire connaissance, hein. Mais qui nous dit que ce mot de kairos, dans tous les textes canoniques même, n'est pas le sens de moment présent? Et on aurait là alors une toute autre figure de Jésus, qui ne serait plus le prophète exalté et apocalyptique, mais qui serait un maître de sagesse, qui nous inviterait à nous concentrer sans nous laisser parasiter sur le moment présent. Un proverbe latin que j'aime bien aussi, c'est « age quod agis », c'est-à-dire « fais réellement ce que tu fais ». Quelque chose que je ne comprends pas, par exemple, c'est par exemple les joggeurs qui courent avec un Walkman sur les oreilles. Je ne sais pas si ça, vous n'avez pas réfléchi, Redouane, un peu à cet éparpillement. Quand on court, on doit se concentrer sur ce que l'on fait. Écouter de la musique, ça me semble...
C'est peut-être pour marquer la cadence.
peut-être. Mais dans notre civilisation agitée et extravertie, nous oublions de nous concentrer. Hein. Nous oublions que selon le mot de Sainte Thérèse, Dieu est présent jusqu'au fond des casseroles. C'est-à-dire, quand on fait le ménage, en se concentrant bien sur ce que l'on fait, on doit arriver à une unification intérieure. Age quod agis, fais ce que tu fais. Et ce Jésus, qui est en somme aussi celui de l'évangile de Jean, hein, surtout, hein, et pas du tout celui de l'Apocalypse. Hein. De ce point de vue, je pense pas que l'Apocalypse est le même auteur que l'évangile. Hein. Je ne crois pas. Hein. Et alors, l'attente, dans ce cas-là, n'a plus lieu d'être, puisque une fois que l'on a fait la conversion ou la métanoïa, tout est donné et tout est offert à la saisie, hic et nunc, ici et maintenant. Alors voici ce qu'on lit toujours dans l'évangile selon Thomas. Ses disciples lui dirent, le royaume, quel jour viendra-t-il? Vous voyez, les disciples se situent dans une perspective d'attente ou d'espérance. Le royaume, quel jour viendra-t-il? Réponse de Jésus. Jésus répond, il ne provient pas d'une attente. On ne dira pas, voici, il est ici, ou voilà, il est là. Mais le royaume du Père s'étend sur la terre, et les hommes ne le voient pas. Magnifique logion, c'est le logion 113. Et voyez aussi le logion 51. Ce que vous attendez est venu, mais vous ne le connaissez pas. Hein. Chez nous, on dit aussi, j'aime beaucoup parler des proverbes, si j'ai commencé par l'espoir fait vivre, hein, je terminerai par un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Hein. C'est-à-dire, sache goûter l'instant et sache t'y concentrer. Nous écouterons à la fin une chanson très courte de Bobby Lapointe. Alors, on s'étonnera que j'ai pris Bobby Lapointe. Eh bien, je l'aime beaucoup, cette chanson. Ça s'appelle « Petit homme qui vit d'espoir » et qui nous montre que vivre d'espoir peut amener le désespoir, véritablement. Hein. Voilà, j'espère n'avoir choqué personne dans ce renversement que j'ai fait vers la fin de l'émission.
Oh, bah de certains chocs naissent des étincelles.
Ah.
C'est ainsi qu'est né le Big Bang,
semble-t-il,
qui a produit de la vie. Merci Michel, ainsi se termine notre émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et le mot sera ange. Et justement, on saura toutes ces expressions, être sage comme un ange ou les
être
anges
aux
dans
anges.
Les être aux anges.
Un ange passe.
Voilà, généralement... En Hollande, en France, on dit un ange passe, alors qu'en Hollande, on dit un pasteur passe.
Ah,
quand on fait silence.
Ah, oui.
Alors peut-être qu'un jour, vous nous ferez aussi un défrichage du mot pasteur, je l'espère.
Oui.
Voilà, on vous souhaite une bonne semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez télécharger cette émission en vous branchant, comme on dit, sur la toile, en tapant sur internet www.fmplus.org et là vous avez qu'à suivre ensuite les indications pour les podcasts. Merci, à la semaine prochaine. Merci à vous Michel et puis on laisse la place à Bobby Lapointe.
Au revoir.
Au revoir.
Petit homme qui vivait d'espoir, rencontra sur la butte en soie, femme enfant de grande beauté qui effleure au soulier crotté, aussitôt son cœur a bondi. J'ai senti l'âme d'un bandit, il y avait du bonheur à ravir, à une fille belle à ravir, l'aborder lui a dit bonsoir, je suis l'homme le plus riche d'espoir, j'en ai trop, j'en ai bien pour deux, et de vous je suis amoureux, j'ai l'espoir de toujours vous voir, j'ai l'espoir bientôt vous avoir, j'ai l'espoir de mettre à vos pieds les richesses du monde entier, à tricher plus jolis espoirs, les amis dans un grand mouchoir, Pas la belle, il les a donnés, mais la belle les a piétinés. Elle a dit le truc de l'espoir, on me l'a déjà fait, pas d'histoire. Offre-moi des réalités, sinon sur moi faut pas compter. Petit homme qui vivait d'espoir, à pleurer dans son grand mouchoir, à pleurer tout ce qu'il savait et aussi ce qu'il ignorait. Et monté sur la tour Eiffel, il s'était lancé vers le ciel. Et retombé sur la chaussée, son sang en tout éclaboussé. Les passants de sang tout taché sont allés se faire détacher. Du moment qu'il y a des tatouages, il faut bien les faire retravailler.